Prologue. Au centre de son esprit, la porte conduisant au palais de la mémoire d'Hannibal Lecter est dans les ténèbres. Mais il est possible de retrouver son loquet rien qu'au toucher. L'étrange portail ouvre sur des espaces immenses et lumineux, baroques anciens, sur des couloirs et des salles qui rivalisent en nombre avec ceux du musée Topkapi. Partout, des expositions bien éclairées et bien définies se succèdent, chacune liée à des souvenirs qui conduisent à d'autres réminiscences en une progression exponentielle. Les sections consacrées aux premières années d'Hannibal diffèrent des suivantes en ce que les archives qui les fondent restent incomplètes. Il y a des scènes sans vie, fragmentaires comme des débris de statues antiques réassemblées dans du plâtre anonyme. D'autres salles ont le son et lumière, cependant, et l'on entend de grands serpents lutter et siffler dans le noir, seulement révélés par des éclairs intermittents. Des plaintes et des hurlements emplissent certains réduits dans les ailes où Hannibal lui-même ne peut se risquer. Mais les corridors ne les renvoient pas en écho. Il y a aussi de la musique, si l'on préfère. L'édification du palais a commencé au premier temps de l'apprentissage du jeune Hannibal. Ensuite, pendant les années de confinement, il l'a agrandi et embelli, survivant sur ses trésors pendant les longues périodes où ses geôliers lui daignaient l'accès à ses livres. Dans les brûlantes ténèbres de son esprit, de nos doigts tâtonnants, cherchons ensemble le loquet. Après l'avoir trouvé, laissons-nous guider par la musique à travers les couloirs et, sans regarder à droite ni à gauche, entrons dans le péristyle du commencement, là où les visualisations sont les plus parcellaires. Nous allons leur ajouter ce que nous avons appris ailleurs, dans les récits de guerre, les dossiers de police, les interrogatoires, dans les froids rapports d'autopsie, dans la posture des morts. Récemment retrouvée, la correspondance de Robert Lecter peut nous aider à préciser les étapes de l'existence d'Hannibal, qui a souvent modifié les dates à sa guise, afin d'induire en erreur les autorités et ses chroniqueurs. Grâce à nos efforts, nous pourrons être témoins du moment où la bête se détourne du sein nourricier et, remontant lentement le puits intérieur, fait son entrée dans le monde. Partie 1. La première chose que j'ai comprise. Le temps, c'est une hache qui résonne dans du bois. Philip Larkin. Chapitre 1. Hannibal le Sombre, 1365-1428, construit le château Lecter en 5 ans, à la sueur des soldats qu'il avait fait prisonniers à la bataille de Jalgiris. Le jour où son étendard fut hissé au faîte des tours enfin achevées, il fit rassembler les captifs dans le potager et, hissé sur l'échafaud pour les haranguer, annonça aux captifs qu'ils pouvaient rentrer chez eux, ainsi qu'il l'avait promis. Un grand nombre d'entre eux choisirent de rester à son service, cependant, car ils étaient bien nourris par leur nouveau seigneur. 5 siècles plus tard, Hannibal Lecter, 8 ans et 8e du nom, se trouve dans ce même potager en compagnie de Misha, sa petite sœur. Ils sont occupés à lancer du pain aux cygnes noirs qui passent sur les eaux tout aussi noires des douves. Misha, qui tient son frère par la main pour garder son équilibre, manque son but à plusieurs reprises. De grosses carpes agitent les feuilles des nénuphars, obligeant les libellules à s'égayer dans les airs. Bientôt, le mâle dominant de la troupe aborde la rive et s'avance sur ses courtes pattes vers les enfants, qu'il défie en stridulant. Le cygne connaît Hannibal depuis toujours, mais il ne les charge pas moins, et ses grandes ailes d'ébène leur masquent une partie du ciel.
« Oh, Hannibal !»
gémit Misha en se cachant derrière la jambe de son frère. Hannibal lève les bras à l'horizontale, ainsi que son père le lui a appris. Son allonge accrue par les branches de saule qu'il a prises dans ses mains. L'oiseau s'arrête pour étudier cette envergure plus considérable que la sienne, puis retourne à l'eau et à son repas.
« On fait la même chose tous les jours !»
objecte le garçon à l'adresse du volatile. Mais ce jour-là n'est pas comme les autres, et il se demande où les cygnes vont pouvoir s'enfuir. Dans son affolement, Misha fait tomber son pain sur le sol détrempé. Quand Hannibal se penche pour le ramasser, elle s'amuse à lui barbouiller de vase le bout du nez avec sa petite main en forme d'étoile. Il lui rend gentiment l'appareil et elle rit tous deux de leur reflet sur la surface des douves. Soudain, les enfants sentent la terre gronder trois fois. L'eau frissonne, brouillant leurs visages. Des explosions au loin roulent en tonnerre au-dessus des champs. Saisissant sa sœur par le bras, Hannibal se met à courir vers le château. La carriole de chasse a été amenée dans la cour. César, le grand cheval de trait, y est attelé. Berne, sanglé dans son tablier de palefrenier, et Lothar, le factotum, sont en train de charger trois petites malles à l'arrière. Chef sort avec son déjeuner. « Maître lecteur, madame vous attend dans sa chambre, » dit-il au garçon. Après avoir confié Misha à la nounou, Hannibal s'élance dans les escaliers aux marches creusées par l'usure. Il aime la chambre de sa mère, les parfums complexes qui y flottent, les visages sculptés dans le bois des meubles, le plafond décoré de fresques. Madame Lecter, qui descend d'un côté des Sforza et de l'autre des Visconti, a amené son décor avec elle quand elle a quitté Milan. Elle est émue maintenant et la lumière se reflète en étincelles rougeoyantes dans ses yeux havanes. Pendant qu'Hannibal tient le coffret à bout de bras, elle presse les lèvres d'un chérubin sur une moulure et un rangement secret apparaît. Elle ramasse ses bijoux à poignée et les jette dans le coffret avec quelques paquets de lettres attachés ensemble. Il n'y a pas assez de place pour tout. Hannibal se dit qu'elle ressemble au portrait de sa grand-mère sur le camé qui vient de tomber dans la boîte. Les nuages peints au plafond. Quand il était encore au sein, il lui arrivait de lever les yeux et la poitrine de sa mère se confondait à eux. Le contact des coutures du chemisier maternel contre sa joue. Et sa nourrice aussi, son crucifix doré brillant comme un soleil entre de prodigieux cumulus, s'incrustant sur la peau de son visage quand elle le serrait contre lui. Et alors, elle se hâtait de frotter la marque de la croix sur lui avant que sa mère ne l'aperçoive. Son père est apparu sur le seuil de la chambre. Il porte les lourds registres sous son bras. « Il faut partir, Simonetta. » La baignoire en cuivre de Misha est pleine de linge d'enfant, entre lequel madame glisse le coffret. Jetant dans la pièce un regard circulaire, elle va prendre un petit tableau sur la commode, une vue de Venise posée sur un tripode, le contemple un moment et le tend à son fils. « Apporte-le à chef, tiens-le par le cadre. » Elle lui sourit. « Ne salis pas le dos de la toile cette fois. » Lothar descend la baignoire et la charge dans la carriole. Dans la cour, Misha va et vient, inquiété par cette agitation inhabituelle. Hannibal la soulève dans ses bras pour qu'elle puisse caresser le museau de César. Elle le presse à plusieurs reprises entre ses doigts, comme on le ferait avec la poire d'un klaxon. Hannibal remplit son poing de graines qu'il fait couler sur le sol de la cour en traçant un M. Les pigeons s'abattent dessus, forment un M d'oiseau bruissant. Il écrit la lettre dans la paume de Misha. Elle a presque 3 ans déjà. Il désespère qu'elle apprenne jamais à lire. « M comme Misha » prononce-t-il. Mais elle s'élance en riant vers les pigeons qui s'envolent autour d'elle, montent dans les airs, s'éparpillent au-dessus des tours, puis s'abattent sur le beffroi. Chef, un grand gaillard en tenue blanche de cuisinier, revient avec un panier. L'œil du cheval pivote dans son orbite pour suivre son approche. Quand César était encore un poulain, Chef a dû le chasser du potager en de multiples occasions, criant des imprécations et le frappant sur la croupe avec un balai. « Je vais rester à emballer la cuisine », propose Monsieur Yakov à Chef. « Partez avec le garçon », lui ordonne ce dernier. Le comte lecteur hisse Misha sur la carriole. Hannibal entoure sa sœur de ses bras. Le comte lecteur prend le visage du petit entre ses mains. Surpris de les sentir trembler, Hannibal scrute avec attention les traits de son père. 3 avions ont bombardé la gare de triage. Le colonel Timka dit que nous avons encore au moins 1 semaine, quand bien même il pousserait jusqu'ici, et qu'ensuite les combats se concentreront autour des routes principales. Tout ira bien pour nous, au relais de chasse. On est au 2e jour de l'opération Barbarossa, l'offensive éclair d'Hitler à travers l'Europe orientale et jusqu'en Russie.